Bon, alors, on continue le petit parcours sur l'ésotérisme. Et ce matin, donc, ça va être un sujet un petit peu plus anecdotique d'une certaine manière. Et en même temps, j'ai trouvé bien de proposer ce thème pour cette session parce que c'est lié de très près à Marie-Madeleine, à la perception que vont avoir nos contemporains de Marie-Madeleine. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la manière dont l'ésotérisme... Alors là, je vous ai parlé des courants ésotériques à proprement parler depuis deux jours. On a vu hier la réaction de l'Église sur un plan, doctrinal et une réflexion théologique sur la réponse à apporter aux défis lancés par ces mouvements et leur popularisation. Et là, ce matin, donc, on va avoir un phénomène d'un autre ordre, dont le frère a un petit peu parlé hier. Le passage d'un ésotérisme déjà plus grand public que l'ésotérisme savant confidentiel à un ésotérisme encore plus grand public à travers les œuvres de la culture commune actuelle, en fait, les œuvres à succès de la culture contemporaine. Et donc, nous allons parler du Da Vinci Code. Donc, je vous invite à prendre dans le dossier la page 9, le texte numéro 10, enfin les deux textes numéro 10. Et donc, je vous ai mis en introduction pour cerner un petit peu pour vous permettre de situer l'ampleur du phénomène, le nombre d'exemplaires du Da Vinci Code qui se sont vendus dans le monde, 90 millions d'exemplaires. Sur une population, je ne sais plus combien on est aujourd'hui, 7, 8 ou 9 milliards. Si je ne me suis pas trompé, ça fait à peu près 1% de la planète qui a eu le Da Vinci Code, qui a acheté le Da Vinci Code. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Et pour la France, 4 millions d'entrées pour le film. Voilà. Alors, je suis parti du principe que tout le monde n'aurait pas lu le Da Vinci Code ou tout le monde n'aurait pas vu le film, et donc qu'il fallait vous situer un petit peu l'histoire et ce que ça raconte. Et comme le résumé Wikipédia était plutôt bien fait, je vous ai mis le résumé Wikipédia, et je vous propose de le lire ensemble pour que vous ayez tous bien en tête ce que raconte le Da Vinci Code. Alors, Robert Langdon, un symbologiste américain, donc quelqu'un qui étudie le symbolisme, alors c'est un métier qui n'existe pas à ma connaissance, mais en l'occurrence c'est son métier, et on voit déjà premier lien avec l'ésotérisme, l'attirance pour les symboles, un symbologiste américain est entraîné malgré lui, lors d'un voyage à Paris, dans l'affaire du meurtre de Jacques Saunière, conservateur au musée du Louvre. Langdon est soupçonné du meurtre, principalement à cause d'un message que Saunière a écrit sur le sol avant de mourir, s'achevant par la phrase « PS, trouvez Robert Langdon ». Donc ça va, le conservateur du musée du Louvre meurt, Jacques Saunière, il écrit un message sur le sol en disant, en écrivant certaines choses, en disant « Retrouvez Robert Langdon, ce symbologiste ». Seule Sophie Neveu, cryptologue et petite-fille de Saunière, croit en l'innocence de l'Américain, du symbologiste. Persuadée que le message de son grand-père s'adresse à elle en particulier, Sophie Neveu demande à Langdon de l'aider à en comprendre le sens, le message pouvant d'ailleurs leur permettre de comprendre qui est le vrai meurtrier. En retour, elle l'aide à échapper au commissaire Fache, lancé à ses trousses. Le méchant s'appelle Fache, on voit la grande force d'imagination. Langdon et Neveu découvrent par la suite que Saunière a été à la tête du prieuré de Sillon. Donc retenez le nom parce qu'il va revenir dans toute la présentation. Le prieuré de Sillon, une ancienne et puissante confrérie, et qu'il a été assassiné par un membre de l'Opus Dei. L'assassin voulait protéger un secret dont le conservateur du Louvre avait connaissance, un secret susceptible d'ébranler les fondements de la foi chrétienne. Quel est ce secret? Jésus de Nazareth aurait eu un enfant avec Marie-Madeleine. Touché d'une balle dans le ventre, agonisant, Saunière a eu peur que le secret ne se perde après sa mort et a donc cherché à le transmettre à sa petite-fille, donc Sophie Neveu. Pour cela, il a écrit sur le sol un message abscon, espérant qu'elle seule pourrait le comprendre, à condition qu'elle soit aidée par le symbologiste Langdon, qu'il connaissait et en qui il avait confiance. D'où le trouver Robert Langdon, qui n'est nullement une accusation contre l'Américain. C'est difficile à comprendre. Obscur. Il a également choisi de mourir dans une position symbolique rituelle. Donc là, vous voyez le lien avec la, tout l'ésotérisme dont je vous ai parlé avant, rappelant celle de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, permettant ainsi à Langdon et à Neveu de comprendre que le secret a un rapport avec le peintre italien, d'où le titre du roman, Da Vinci Code, le code da Vinci, le code secret dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Un rapport avec le peintre italien, en effet, celui-ci aurait été le chef du prieuré de Sillon et aurait cherché à exprimer à travers ses œuvres, de façon indirecte, ses idées sur la nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc voyez la trame de l'histoire, un secret caché tout au long de l'histoire de la chrétienté, Jésus et Marie-Madeleine ont eu un enfant, et un certain nombre d'initiés qui sont détenteurs de ce secret et qui le gardent, qui se le transmettent de bouche à oreille dans le secret, dans la crainte de l'Église catholique qui cherche à les détruire. Le thème central du Da Vinci Code est la lutte secrète entre les instances dirigeantes de l'Église catholique romaine et le prieuré de Sillon. L'objet de cette lutte est un secret connu des deux organisations, à savoir la paternité du Christ. La divulgation de ce secret menacerait le pouvoir de l'Église et risquerait d'ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Soucieuse de conserver son pouvoir, l'Église semble donc chercher à détruire tout détenteur du fameux secret, dont le prieuré, tandis que les membres du prieuré luttent pour la préservation de ce même secret, qu'ils se transmettent de génération en génération. Sont par ailleurs évoquées en arrière-plan les deux idées selon lesquelles l'Église catholique, voulant acquérir et garder le pouvoir, s'est interposée et imposée comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Premier point. Et deuxième point, l'union sexuelle, qui laisse toute sa place à l'altérité homme-femme et qui est un moyen privilégié d'entrer en contact direct avec Dieu, a été déclarée péché par l'Église catholique. Voilà le contenu du Da Vinci Code, et donc, je vous redonne le chiffre, 90 millions d'exemplaires vendus dans le monde. J'avoue que j'ai pas cherché, mais en fait, ce que je vais raconter, c'est comment il a eu l'idée de toute cette théorie, et on va voir les différentes étapes de comment ce roman, comment cette thèse et ces idées sont arrivées dans ce roman. Et alors, si j'en perds en route, surtout n'hésitez pas à lever la main, à vous manifester, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est une strate, des strates empilées de mystifications successives qui sont nées dans un groupe ésotérique microscopique et qui ont été enrichies, agrémentées au fil des décennies jusqu'à donner ce roman à succès. Et c'est, pour moi, c'est une illustration absolument sans équivalent de du rayonnement ensuite des idées qui fermentent et qui germent dans ces courants ésotériques. Alors, une objection qui est faite aux personnes qui... Alors là, je m'appuie sur les travaux d'un historien américain qui s'appelle Massimo Introvigne, qui est un ami proche de la responsable du master que j'ai fait sur les religions, qui est un avocat mais qui a assez riche, mais qui consacre tout son temps libre et son argent aux études historiques en fait sur les groupes ésotériques et les nouveaux mouvements religieux. Et c'est quelqu'un qui est très connu maintenant, qui a une réputation internationale, qui est vraiment un universitaire reconnu et qui produit des travaux de grande qualité. Donc Massimo Introvigne. Introvigne comme intro et vigne attaché, quoi. Massimo. Et donc il a écrit un livre sur le sujet que j'ai pas pu amener parce qu'il était emprunté à la bibliothèque, donc j'ai pas pu l'avoir. Mais il a écrit tout un bouquin sur le je sais pas le mot français, le décryptage en fait de la genèse du Da Vinci Code, qui est absolument excellent. Et donc une objection qui lui a été faite, c'est de dire mais oui, mais le roman de Dan Brown, c'est un roman, c'est pas une œuvre de. Ça se présente pas comme un livre d'histoire. Donc pourquoi vous allez chercher des noises à ce pauvre Dan Brown, puisqu'il prétend juste écrire un roman? Alors voilà par quoi commence le Da Vinci Code, la toute première page. Je vous la lis. Vous l'avez au haut de la page, là. Les faits. La société secrète dite du prieuré de Sion a été fondée en 1099, après la première croisade. On a découvert en 1975 à la Bibliothèque nationale de France les parchemins connus sous le nom des dossiers secrets, où figurent les noms de certains membres du prieuré, parmi lesquels on trouve Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo et Léonard de Vinci. L'Opus Dei est une œuvre catholique fortement controversée qui a fait l'objet d'enquêtes judiciaires à la suite de plaintes de certains de ses membres pour endoctrinement, coercition et pratiques de mortification corporelle dangereuse. L'organisation vient d'achever la construction de son siège américain d'une valeur de 47 millions de dollars au 243, etc. Toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art, de documents et de rituels secrets évoqués sont avérées. Donc, c'est présenté comme des faits historiques et comme le dévoilement d'une réalité historique. Alors après, évidemment, les 90 millions de personnes qui l'ont acheté n'ont pas toutes cru ce que contient le livre. Et c'est pour vous dire que de la manière dont c'est présenté, c'est fait de telle sorte que la personne qui lit ça se dit « Chouette, on est en train de enfin me révéler les secrets, la vérité cachée de toute l'histoire de l'humanité. » Et voilà en quoi ça consiste. L'enfant caché de Jésus et Marie-Madeleine, etc. Alors, l'Opus Dei, on pourra en parler après si vous voulez, et peut-être que le frère en parlera mieux que moi, parce que moi, j'ai pas tellement étudié la question, mais c'est un peu périphérique, c'est le dernier ajout sur la strate des mystifications. Là, je vais essayer de remonter au point de départ de la grande mystification qu'est ce bouquin, et vous donner les différentes étapes et les différents acteurs dans ce processus. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a deux histoires qui convergent. Donc je vais commencer par vous raconter la première histoire. Et cette histoire, c'est celle de Rennes-le-Château. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose, le mystère de Rennes-le-Château ? Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une petite ville en terre cathare, près des Pyrénées. Et, alors, j'ai pas bien noté les dates, donc je vais essayer de pas dire de bêtises. Enfin, bon, il va y avoir pas mal de noms, je vais essayer de réduire au maximum les noms et les dates, parce que c'est pas forcément super intéressant de tout retenir, mais bon. Grosso modo, l'idée de Rennes-le-Château, le mystère de Rennes-le-Château se présente de la manière suivante. Petit bled au milieu de nulle part, dans une terre anciennement terre cathare. Un prêtre est affecté à la paroisse, l'abbé Saunière. Et donc, dans un petit bled avec une petite centaine d'habitants, on ne voit pas trop d'où pourrait venir un argent, beaucoup d'argent pour faire des travaux. Et ce prêtre, en fait, se met à faire des travaux, des grands travaux dans son église. Il construit des nouveaux bâtiments, il construit une grande tour qu'il appelle Tour Magdalena, je crois, ou Magdala, je ne sais plus, enfin, un lien avec Marie-Madeleine. Et donc, aux alentours, tout le monde commence à se dire, mais d'où vient l'argent de ce prêtre ? D'où il sort l'argent, en fait, pour faire les travaux ? Alors, par ailleurs, ce prêtre était lui-même féru des mystères de l'histoire, etc. Il aimait bien faire des fouilles archéologiques un peu partout. Donc la nuit, en fait, il allait creuser, il allait faire des fouilles archéologiques. Pourquoi la nuit ? Tout simplement parce que quand on trouve des choses en faisant des travaux sur des terres qui ne sont pas privées, ça revient à l'État. Donc il voulait pouvoir garder ce qu'il trouvait, donc du coup il faisait ça à moitié dans le secret. Donc ça nourrit tout un tas de fantasmes sur le fait que le prêtre avait potentiellement trouvé le trésor des Cathares, le trésor des Mérovingiens, le trésor de ceci ou cela, etc. Mais rien de tangible, enfin personne n'était capable de prouver quoi que ce soit. Mais bon, il y avait un lien entre sa passion pour l'histoire, l'archéologie et l'histoire ancienne et sa richesse. Et par ailleurs, dans les constructions qu'il faisait, il a fait appel à des personnes qui avaient eux aussi un certain goût pour le symbolisme. Et donc du coup, dans les constructions qu'il a faites, il y avait un certain nombre de symboles qu'on retrouve dans énormément d'églises, qui ne sont pas nécessairement des symboles ésotériques, mais bon, qui contribuaient à faire grossir un petit peu cette aura de mystère. Alors, c'est là, on est de 1896 à 1915, il est mort en 1917, c'est en gros fin 19e, début 20e. Alors, mais si vous voulez, après je vous donnerai une indication pour retrouver toutes les données sur le site de Massimo Introvigne. Là, c'est juste pour que vous ayez la trame. Après, si vous voulez aller creuser, vous trouverez les données sur Internet. Il a tout mis sur son site Internet, le chercheur, là, gratuitement. Alors, l'évêque du lieu... Alors, bon, ça, c'est le mystère de Rennes-le-Château, et ça continue encore. C'est-à-dire, si vous allez sur la page Wikipédia, il y a encore, soi-disant, une pluralité de versions et une pluralité de... Alors qu'en fait, l'histoire a été... tout a été dévoilé depuis très longtemps. Il y a eu des enquêtes dessus, par l'évêque, et ensuite par des universitaires, et voilà. Ça n'a jamais été jugé en justice, mais c'est passé devant le tribunal ecclésiastique, et c'est... tout a été révélé, quoi. Et que s'est-il passé ? Ben en fait, tout bêtement, au XIXe siècle, une des sources de revenus des paroisses et de l'Église, plus généralement de l'Église catholique, c'était les dons pour les messes, les offrandes de messes. Pas ce qu'on donne à la messe à la quête, mais le fait de donner de l'argent pour qu'un prêtre célèbre une messe pour une personne. Alors ça se fait toujours aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins massif qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment une des sources de revenus importantes pour les paroisses. Et en fait, ce prêtre, pour mener à bien ses travaux, qui lui tenaient beaucoup à cœur, a fait du trafic de messes. C'est-à-dire qu'il a publié dans énormément de revues tout ce qu'il pouvait. Il disait... Envoyez-moi vos demandes de célébration de messe avec tel tarif et je célébrerai une messe pour vos défunts, etc. Et en fait, donc, l'évêque qui a enquêté sur la question, il est arrivé au chiffre suivant, il aurait reçu de l'argent pour 100 000 messes entre 1896 et 1915. Ce qui fait quand même pas mal de messes à célébrer par jour.
100 000 en 20 ans.
Ouais, c'est quand même pas mal. Bon. Ça fait ouais, au pic d'activité, c'était plusieurs milliers par an. Bon, voilà. Donc en fait, toute l'histoire a été complètement dévoilée. Alors il a été jugé, il avait été relevé de ses fonctions de prêtre, mais comme il avait réussi à magouiller quelque chose pour rester propriétaire des constructions qu'il avait faites, il avait fait en sorte que ce soit sa servante qui soit la propriétaire, donc du coup sa domestique qui soit la propriétaire. Donc du coup, il a réussi à garder, il a fini sa vie à Rennes-le-Château. Et alors, pourquoi l'histoire a prospéré, le mystère est resté? Tout simplement parce que les personnes qui ont racheté les bâtiments derrière ont cherché à les exploiter commercialement. Et pour faire venir les touristes et pour faire venir les gens, en fait, ils ont colporté, répandu tout un tas de. Enfin, toutes les thèses les plus fantaisistes qu'il y avait eu, le trésor des Cathares, etc. Et ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de. C'est un lieu, et même à l'heure actuelle encore, c'est un lieu où beaucoup de gens viennent en essayant de percer le mystère de Rennes-le-Château. Et forcément, ça fait tourner l'économie locale. Alors, donc, gardez ça en tête. L'histoire de Rennes-le-Château, c'est pour l'instant aucun rapport avec le Da Vinci Code, mais vous allez voir comment les deux histoires se réemboîtent. Alors, deuxième volet dans cette histoire. Là, l'histoire commence dans l'entre-deux-guerres. Et ça commence dans le vivier, dans tout ce qui gravitait autour de l'Action française. Alors c'était une période où l'Action française était un mouvement encore très influent. À l'heure actuelle, c'est quand même très éteint, quoi, mais il y a eu une époque, il y a eu une grande période de l'Action française où il y avait vraiment un rayonnement intellectuel et puis un poids dans la politique de la France qui était quand même très important. Et autour de l'Action française gravitait un certain nombre de groupes. Pas directement affiliés nécessairement, mais avec les mêmes tendances politiques. Et notamment des groupes à tendance ésotérique. Et parmi ces groupes, alors parmi les personnes qui gravitaient autour de l'Action française dans cette période-là, surgit un certain Pierre Plantard. Alors, ça s'écrit Pierre et Plantard avec un D à la fin. Alors c'est l'acteur principal c'est lui le véritable auteur d'une certaine manière du Da Vinci Code. C'est vraiment lui qui a lancé toute l'histoire. Alors Pierre Plantard, au départ, était à l'Action française et suite à une dissension interne, en fait, il y a eu une scission et un petit groupe s'est détaché. Et Plantard s'est retrouvé à la tête de ce petit groupe, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il était en lien avec un prêtre qui après a été impliqué dans le schisme de Monseigneur Lefebvre, peu importe les détails. Et donc ce Pierre Plantard, à partir de ses 17 ans jusqu'à sa mort, il n'a cessé de fonder des petites organisations politico-religieuses, politico-ésotériques, avec à chaque fois une teinte d'ésotérisme chrétien. Et ce qui au départ, alors lui était plutôt de tendance royaliste, avec adossé à son royalisme un catholicisme ésotérique, un christianisme ésotérique. Alors pour l'anecdote, quand Pétain a pris le pouvoir, il lui a proposé ses services avec son organisation du moment, et les services de Pétain ont analysé l'offre, ils se sont rendus compte qu'il avait à peine une soixantaine de membres, donc du coup ils ont dit « bon, ça ne nous intéresse pas, parce que c'est pas… » Et en fait, à plusieurs étapes de son histoire, il y a des choses comme ça, où il propose ses services au pouvoir en place, et ils enquêtent pour voir ce qu'il en est, et à chaque fois ils trouvent 5 membres, 10 membres, 50 membres, donc à chaque fois il dit « bon, c'est pas très intéressant, parce que… » C'est pas, il n'y a pas grand monde derrière. Donc à chaque fois, ces petites organisations, ça ne marche pas très fort. Mais à chaque fois, du coup, il va en rajouter une dose dans l'histoire, l'espèce d'histoire ésotérique qu'il propose. Alors, au départ, c'est simplement une personne qui veut la restauration de la monarchie en France. Première étape. Deuxième étape, il veut la restauration de la monarchie en France, mais il faut que la personne qui monte sur le trône soit un mérovingien, parce qu'il considère que les Carolingiens ont été des usurpateurs et que le véritable héritier légitime du royaume de France doit être un mérovingien. Bon. L'étape suivante ne manque pas de se produire. c'est pas seulement un mérovingien qui doit monter sur le trône de France, mais c'est lui, Pierre Plantard, puisqu'il a découvert entre-temps qu'il était le descendant des mérovingiens et que c'était donc lui qui devait hériter de la couronne de France. En parallèle de tout ça, il se met de plus en plus à fréquenter des cercles ésotériques, et notamment j'ai évoqué hier Paul Lecourt, l'une des personnes qui a porté la thèse de l'âge du Verseau, de l'ère du Verseau. Il fréquente des initiations, des organisations maçonniques et paramaçonniques, et à chaque fois, il leur pompe un petit peu d'éléments rituels et d'éléments de toutes les hiérarchies des grades maçonniques, etc. Et il injecte ça dans ses propres associations, sachant que, comme je vous l'ai dit, ces associations, c'est des microscopiques, quoi. À chaque fois, il arrive à fédérer une poignée de personnes, une dizaine de personnes, 20 personnes, etc. À chaque fois, ça se dissout, il remonte à côté. Enfin, ça n'arrête pas de... Il y en a toute une suite comme ça. Nouvelle étape, il décide de fonder à la frontière, près de la frontière suisse, un lieu dans lequel il puisse fixer son organisation et étudier et pratiquer les rituels qu'il a adossés à toute sa théorie. Et donc il décide de fonder une association qui va s'appeler le Prieuré de Sion. Et là on voit apparaître pour la première fois le vrai Prieuré de Sion, le véritable, qui est une association loi 1901 qui a été fondée donc par Pierre Plantard en 1956. Là on est en 56. Et donc, il y a le dossier qui a été déposé à la préfecture. Enfin, tout a été fait dans les règles de la légalité. Il y a toute une déclaration pour expliquer les visées de cette association. Et alors, c'est assez curieux parce qu'il a adossé deux activités complètement... il y a d'un côté la restauration de la monarchie en France mérovingienne avec Pierre Plantard à sa tête. Et de l'autre côté, l'action pour l'aide à l'acquisition de bâtiments pour les personnes dans le besoin, etc. Enfin, une espèce d'œuvre humanitaire, mais qui n'a rien à voir. Alors, je sais pas s'il a fait ça pour que ça passe, pour donner une caution, mais bon. En tout cas, voilà, c'est les statuts du vrai prieuré de Sion, c'est-à-dire le prieuré de Sion qui a une existence historique réelle, c'est ça. C'est une association loi 1901 fondée par Pierre Plantard pour aider à l'acquisition d'un logement et pour restaurer la monarchie en France. Il fréquente dans cette période-là des personnes autour de Lamorque, dont je vous ai parlé hier aussi, l'ancien et mystique ordre Rose-Croix, donc les Rosicruciens proches de la franc-maçonnerie, et notamment la directrice, la grand-maître de l'époque qui s'appelait Jeanne Guédon. Nouvelle étape dans la mystification, avec deux acolytes, il décide d'essayer d'étayer un peu ses prétentions au trône, et donc de forger une espèce de mystification dont il va pouvoir se servir pour appuyer sa volonté, son projet politico-religieux. Donc, avec deux comparses, Philippe de Chérizet et Gérard de Sède, des personnes qui aussi gravitaient dans les mêmes milieux ésotériques. Alors peu importe les noms, parce qu'ils ne sont pas spécialement connus, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est une œuvre, s'il n'a pas fait ça tout seul, il a réussi à fédérer des gens autour de son projet. Ils produisent des textes qu'ils déposent à la Bibliothèque nationale de France, et qu'ils intitulent « Dossier secret ». Alors j'ai noté le nom complet quelque part, mais... je sais plus où je l'ai mis. Bon, enfin, en gros, c'est les dossiers secrets de Monsieur Machin. Et en gros, donc, ce sont des textes qui expliquent qu'il se trouve quelque part des manuscrits qui révèlent que le véritable héritier du trône de France, c'est le descendant des Mérovingiens, et avec toute une espèce de pseudo-histoire pour prouver qu'il y a toute une lignée de Mérovingiens qui arrive de la prise de pouvoir des Carolingiens jusqu'à Pierre Plantard. Et c'est là que les deux histoires se retrouvent avec Rennes-le-Château, que j'ai commencé par vous raconter. Ils disent « Si le prêtre de Rennes-le-Château est devenu si riche, c'est pas tant parce qu'il a trouvé un trésor caché dans le château, dans son église, que parce qu'il a trouvé les preuves que les véritables héritiers du royaume de France sont les Mérovingiens. Et donc il a fait chanter un certain nombre de gens avec cette découverte, et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner de l'argent. » Voilà. Donc vous voyez les deux histoires qui convergent, et ils s'appuient sur l'histoire de Rennes-le-Château, sur le prétendu histoire non résolue, pour dire, ben voyez, je vous donne en même temps la résolution d'un autre mystère, et vous voyez comme tout se recoupe, et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les trucs ésotériques, c'est tout converge, en fait. Tout se retrouve, tout se recoupe et tout. Et donc, on se retrouve dans cette situation. Et alors, oui, l'histoire des manuscrits oblige à amplifier la mystification, puisqu'il faut bien que quelqu'un soit détenteur de ces manuscrits qui ont été trouvés par le prêtre. Et donc, il y a toute une histoire inventée aussi de la transmission des manuscrits qui se retrouvent dans les mains de... Enfin, qui sont supposés être retrouvés dans les mains de l'un des deux acolytes avec qui il monte cette mystification. Voilà, ça va, j'ai perdu personne, vous y êtes. Donc on en est au stade où la mystification est simplement, entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de strates empilées, simplement, on a découvert des manuscrits cachés à Rennes-le-Château, le prêtre a gagné de l'argent en faisant chanter avec ça, les manuscrits ont été récupérés par une personne de cette société, du prieuré de Sion, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais du coup, le dossier secret déposé à la Bibliothèque nationale fait aussi mention d'un prieuré de Sion, qui aurait été fondé au Moyen-Âge pour préserver ce secret et pour transmettre ces connaissances qui auraient fini fixées sur le manuscrit en question. Et donc là, le prieuré de Sion, qui au départ était une simple organisation, loi 1901, fondée par Pierre Plantard, devient une société secrète millénaire chargée de garder ce secret. Alors, on en est là. Nouvelle étape. Ça franchit la Manche. Ce sont des Anglais, un ancien acteur anglais du nom de Henry Suskin, qui découvre cette histoire, parce que bon, les informations circulent quand même dans les milieux ésotériques, et les gens se prêtent des... Ah oui, parce que, en fait, toute l'histoire a été rédigée par l'un des deux bonhommes dans un livre intitulé « L'or de Rennes-le-Château ». Et ce livre a été traduit en anglais ensuite, et puis ça a circulé, etc. Donc, cet Anglais, Henry Lincoln, tombe dessus. Il se dit, mais c'est génial cette histoire, il faut en faire quelque chose. Et comme il était dans une démarche, alors c'était un ancien acteur, mais il était dans une démarche, il était passionné par toutes les histoires de sociétés secrètes, de faits secrets, d'ésotérisme, etc. Et il travaillait pour la BBC, et il a monté toute une série de documentaires sur les mystères de l'histoire secrète, en fait. Donc tout ce qui pouvait toucher à... aux histoires un peu mystérieuses, et justement, il connaissait l'histoire de Rennes-le-Château, il connaissait cette histoire de héritage mérovingien perdu, etc., et de voir les deux converger, il s'est dit, mais c'est génial. Et donc, dans les années 70, il a réalisé, avec l'aide de comparses, une petite série de documentaires qui présentaient comme des faits cette histoire de mérovingien, etc. Et puis, dans la fermentation intellectuelle que ça a suscité, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Ils étaient lecteurs d'un ésotériste français que vous avez aussi dans la liste que je vous ai donnée là, qui s'appelle Robert Ambelin. Et dans un de ses textes, Robert Ambelin prétend que Jésus a eu un enfant avec Salomé. Pas Marie-Madeleine, mais Salomé. Et donc, ils ont repris l'idée, ils se sont dit, c'est génial cette idée, on va augmenter encore un petit peu le mystère de l'histoire et le dévoilement des mystères, sauf que ça ne va pas être Salomé, ça va être Marie-Madeleine, c'est plus crédible, elle est proche de Jésus, etc., toutes les histoires qu'on peut entendre, Marie-Madeleine. Et donc, il publie en 1982 ce livre-là, alors là c'est la traduction française, donc le titre c'est « L'énigme sacrée », mais le titre du livre original, c'est « Holy Blood, Holy Grail », le sang sacré, le saint Graal. « Holy Blood, Holy Grail », 1980. Il a écrit d'autres romans après, mais le Da Vinci Code, c'est un seul. Il a écrit après « Angers démon », je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là, Holy Blood, Holy Grail. Et quand on lit ce bouquin, alors je peux vous le faire circuler si vous voulez, il suffit de regarder la table des matières, c'est à en perdre la tête en fait, parce que vous avez les cathares, vous avez les dynasties mérovingiennes cachées, vous avez les templiers, l'ordre du temple, etc. Les artistes avec toute une lignée de grands maîtres du prieuré de Sion imaginaire en fait, où vous avez tous les artistes possibles imaginables, Botticelli... Léonard de Vinci, etc., Poussin. Et on en arrive donc avec tout ce truc, on finit par en arriver à Pierre Plantard. Et donc, toujours lui. Oui, et là, il y a un truc hallucinant qui s'est joué parce qu'eux, ils ont fait ça dans leur coin sans le consulter en fait. Et ils ont greffé sur l'histoire l'idée, là, ça vient d'eux pour le coup. L'idée que non seulement c'était les Mérovingiens les héritiers légitimes du trône de France, mais en plus les Mérovingiens étaient les descendants de Jésus et Marie-Madeleine. Voilà l'étape supplémentaire. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de ces personnes-là, donc Henry Lincoln, Michael Bygant et Richard Light. Et voyez le sous-titre du bouquin, alors si vous voulez, je vous lis le résumé derrière. Est-il possible que Jésus ne soit pas mort sur la croix, qu'il se soit marié avec Marie-Madeleine, qu'ils aient eu des enfants et que leur descendance existe encore aujourd'hui ? Qui avait intérêt à ce que ces vérités ne soient pas dévoilées ? Au terme d'une investigation minutieuse de 12 années, rien du tout, ils ont lu des textes ésotériques, au terme d'une investigation minutieuse de 12 années, trois grands reporters, donc des reporters, brossent un tableau d'une cohérence étonnante et laissent imaginer l'invraisemblable. Les faits historiques et les symboles s'assemblent comme les pièces d'un puzzle et les énigmes se résolvent d'elles-mêmes. Le trésor de la Bessonnière de Rennes-le-Château, le Saint Graal, les manuscrits de la Mère Morte, la dynastie mérovingienne, le rôle du prieuré de Sion, des Templiers, des Cathares, des francs-maçons. Une enquête unique et palpitante qui vous fera découvrir les véritables fondements historiques du Da Vinci Code. Et il présente ça comme un livre d'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman, là, pour le coup. Non. C'est un livre d'histoire. C'est l'histoire cachée fait par des reporters, des journalistes historiens qui vous révèlent la vraie vérité historique de l'Occident. Alors, Pierre Plantard, avant de cette histoire, il dit « Mais c'est génial, pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même » Et il joue le jeu. C'est ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il accepte de paraître à la télé en disant « Oui, je suis descendant de Jésus. » Alors, il faut voir la tête du bonhomme, en plus, si vous voulez le... Voilà, si vous voulez, je vous fais circuler le portrait de Pierre Plantard, c'est le monsieur sur la droite. Donc c'est lui le descendant de Jésus. Et donc, l'histoire, le livre se vend plutôt bien. Dan Brown, c'est donc là, les années passent, etc. Et Dan Brown finit par tomber sur ce bouquin, se dit « Mais c'est génial cette histoire !» Et il reprend tout, toute la trame, il y greffe l'histoire, parce qu'il fallait bien quand même que Rome... Alors eux, dans leur enquête historique, ils insistent assez lourdement, ils sont anti-catholiques comme c'est pas permis, et ils insistent très lourdement sur le fait que l'Église catholique romaine, de tout temps, à tous les temps de l'histoire, a œuvré à maintenir ce secret caché, parce qu'en fait, toute l'assise de son pouvoir, puisqu'ils peuvent pas concevoir l'Église autrement que comme un pouvoir politique, toute l'assise de son pouvoir étant adossée sur la divinité de Jésus et sur la succession apostolique, eh bien, tout au long de l'histoire, ils ont tout fait pour empêcher que ce secret soit divulgué, et c'est ce qui explique la destruction de l'ordre du Temple qui était le détenteur de ce secret, c'est ce qui explique la persécution des cathares parce que les cathares étaient détenteurs de ce secret, c'est ce qui explique que l'Église a condamné tel ou tel artiste parce que cet artiste était... Enfin, il y a tout. Vous pouvez expliquer toute l'histoire comme ça, ça résout tout. Voilà. Dan Brown tombe là-dessus, et lui, le petit coup de génie qu'il va avoir, bon, déjà, c'est d'en faire un roman plutôt bien ficelé, avec en le réactualisant, si vous voulez, et il va greffer dessus cette histoire de l'Opus Dei, l'Opus Dei, donc, qui aurait été fondé pour détruire le prieuré de Sion, puisque derrière tout ça, il y a donc le mystérieux prieuré de Sion, qui œuvre depuis des siècles et des siècles à la préservation de ce secret, en attendant le moment favorable où on pourra le dévoiler. Et comme vous en doutez, évidemment, c'est au XXe siècle qu'enfin on peut avoir accès à la vérité. Et donc voilà, le Da Vinci Code, enfin l'Opus Dei greffé par-dessus, comme l'organisation montée de toutes pièces par l'Église catholique pour combattre le prieuré de Sion. Et donc là, voilà, vous avez la trame du Da Vinci Code et l'histoire telle qu'elle est présentée. Quoi. Alors pour l'anecdote, les auteurs du bouquin là qui circule, Holy Blood, Holy Grail, ont fait un procès à Dan Brown pour plagiat, qui est tout à fait légitime, puisqu'il les a vraiment plagiés, quoi. Et ils ont perdu le procès. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont présenté leur livre comme un livre d'histoire. Or, même un livre d'histoire, même le plus faux possible, le plus infondé possible, du moment qu'il est rangé dans la catégorie histoire, c'est pas une œuvre d'imagination, ça fait partie du domaine public. Et donc, du coup, on peut pomper dedans autant qu'on veut. Ça n'a, pour une œuvre d'imagination, ça n'a aucune importance. C'est... Et alors, en fait, il y a eu une... Non, ils sont morts. Ils ont été contemporains, parce qu'ils ont... C'est vraiment assez récent, ça, c'est les années 80. Là, ce bouquin-là, c'est les années 80. Et alors, pour l'anecdote, en fait, ils se sont rendus compte quand même à un certain moment que l'histoire de... Enfin, en gros, que pour les Français, ça pouvait être intéressant de savoir qui était l'héritier du trône de France, etc. Et le Pierre Plantard, ça pouvait être intéressant pour eux. Mais pour le public anglo-saxon,
Ouais, ils s'en fichent un peu.
Pierre Plantard, on s'en fiche un petit peu. Alors du coup, ils ont écrit un bouquin de réfutation de leur bouquin, en disant, bon, les informations qu'on tenait de Pierre Plantard, c'était un peu du pipeau, il y a quand même une bonne part de mystification là-dedans, et puis de toute façon, c'est de notoriété publique que c'est un escroc, et enfin, ça n'a jamais marché ce qu'il a fait, etc. Mais par contre, une partie de tout ce qu'on vous a raconté est vrai, et ils ont refait un autre bouquin avec le même degré d'enchevêtrement, de mystification et de trucs, mais cette fois en évacuant complètement la question de Pierre Plantard et de l'héritage de la couronne de France, parce que bon, ils s'étaient rendu compte que pour les Britanniques, c'était pas génial, quoi.
Mais c'est ce que j'allais dire, comme par hasard, l'héritier de Jésus, il serait français.
Ben, quand on voit, en fait, quand ça sort de nulle part, on se dit, mais c'est, enfin, qui peut croire à ça? Mais quand on voit toutes les strates, l'empilement des degrés dans la mystification, on comprend la logique, en fait. Au départ, c'est vraiment parti d'un royaliste qui voulait légitimer son propre accès au trône de France, quoi. Voilà, donc c'est fini, je ne sais pas quoi ajouter de plus. À part que, en fait, c'est toujours ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que quand on aborde les choses sous l'angle historique et qu'on déroule l'histoire avec les sources, etc., on se rend compte que c'est grotesque. Mais la plupart des gens, ils vont absolument pas aller acheter. La plupart des gens, ils ont acheté ça. C'est-à-dire un livre de poche, là, il y a encore l'étiquette à 7 euros. Ils ont acheté ça dans le hall du buraliste, enfin, chez le buraliste ou dans le hall de guerre, etc. Et ils se disent, mais c'est génial, enfin on me révèle des secrets sur la vraie histoire de l'humanité, etc. En plus, bon, c'est écrit dans un style assez accessible. Et ils vont pas aller acheter le bouquin à 30 euros de démystification du Da Vinci Code, ou ils vont pas aller sur le site du chercheur italien qui a travaillé dessus, etc. Donc, et même, c'est là aussi où il y a une différence d'échelle, même si une réfutation de qualité est produite, c'est exactement la même chose que quand le magistère produit un document absolument impeccable pour répondre à telle ou telle personne ne le lit, quoi. C'est-à-dire que c'est lu par les personnes qui sont déjà à moitié dans une situation de doute par rapport à la soupe qu'on peut leur vendre pour grand public, quoi. Et donc du coup, quelle que soit la qualité de la réfutation qu'on peut produire, sur les 90 millions d'exemplaires vendus, il n'y a pas eu 90 millions d'exemplaires vendus de la réfutation de Massimo Introvigne, quoi. C'est pas peut-être quelques centaines au plus. Voilà. Et pire que ça, quand un évêque, j'ai le nom de l'évêque par là, un évêque a proposé une conférence pour justement pouvoir débattre des faits historiques derrière le Da Vinci Code, dans laquelle Massimo Introvigne était invité, il y a eu un scandale et toutes les télés, les médias s'en sont mêlés pour dire, mais regardez, c'est l'Inquisition qui recommence, le pape qui veut interdire une œuvre d'imagination parce que ça remet en cause la. Voilà. Donc il y a eu un espèce de mini-scandale. Donc en fait, l'Église est un peu terrifiée par rapport à ça, parce que dès qu'il y a quelque chose qui semblerait s'opposer à un aspect de la modernité, bah, de suite, on sort les bazookas et on dit, regardez, c'est l'Inquisition qui redémarre, quoi. Voilà, donc c'est très difficile, c'était aussi pour vous dire que c'est très difficile de répondre à ce genre de mystification, de falsification historique, mais qui est quand même énorme, quoi. C'est un truc absolument grotesque, quoi. Mais c'est difficile d'y répondre, même pour les historiens, même pour les universitaires, qui sont un peu déboussolés par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a un rapport en accès au public qui n'est pas du tout le même, quoi. Et c'est du coup, ça ne facilite pas la tâche pour. Voilà.